La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Depuis 1977, tous les jeudis, des femmes manifestent en Argentine à 15h30 sur la place de Mai à Buenos Aires. Sous les fenêtres du palais présidentiel, un rituel immuable décrit cette semaine dans l'Express. Fichu blanc noué sous le menton, elles marchent en rond pendant 30 minutes afin de perpétuer la mémoire de leurs enfants kidnappés, torturés et tués par la plus abjecte des dictatures d'Amérique du Sud. 30 000 disparus et plusieurs centaines de bébés volés pour être confiés à des familles d'extrême droite, dictature qui a perduré de 1976 à 83. Au fil des ans, ces femmes sont devenues célèbres dans le monde entier. Leur rendez-vous du jeudi se transformant en attraction touristique. On vient assister au spectacle de ces indomptables, dont beaucoup sont maintenant nonagénaires, des vieilles dames qu'on appelle les mères de la place de Mai. Mais voilà plus de 2 mois que ces mères ne viennent plus tourner en rond devant le palais présidentiel. Pour la première fois en 43 ans, la faute au Covid-19 et au confinement décrété par le gouvernement argentin après 2187 jeudis de manifestation, par la force des choses, tout s'est subitement arrêté. Enfin, pas tout à fait. Car comme le raconte la correspondante de l'hebdomadaire à Buenos Aires, l'une des figures historiques du mouvement a décidé de poursuivre l'action de chez elle. Hebe de Bonafini, 91 ans, dont 2 des filles sont disparues en 1977, continue de manifester tous les jeudis chez elle. Elle se filme en train de marcher, faisant le tour de sa cuisine, après quoi elle poste la vidéo de 30 minutes sur le site internet de son association. Son amie Nora Cortinas, 91 ans, est elle aussi confinée. Et elle explique que grâce au virus, elle est redevenue une femme au foyer. Ça ne m'était pas arrivé depuis 4 décennies, pour autant... Pas question d'arrêter le combat, parce que, dit-elle, de nombreux tortionnaires n'ont toujours pas été inquiétés. En ce dimanche de fête des mères, celle de la place de Mai nous montre le courage, la force, l'endurance dont elles sont capables.
Mais ce matin, ce sont d'autres manifestations qui font la une.
Contre le racisme, la mobilisation devient planétaire. Titre ainsi le Parisien. Dans le monde entier, la rue se mobilise, constate également Sud-Ouest, tandis que l'Union évoque l'onde de choc qui s'est propagée depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. On s'est rassemblé à Londres, à Berlin, à Turin, à Sydney. Et les appels à manifester ont réuni des milliers de personnes en France, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes, Caen, Nantes, mais aussi dans de peu plus petite ville, à Béziers ou Albi, une mobilisation sans précédent, estime l'historien François Durper, spécialiste des États-Unis. Les manifestants disent en substance « On ne peut pas lutter contre le racisme si on ne commence pas à reconnaître qu'il y a du racisme ». C'est ce que clament les pancartes à travers le monde. Les manifestants veulent une véritable reconnaissance de ce qu'ils vivent. Et on en trouve l'illustration dans l'équipe ce matin avec le témoignage d'un rugbyman qui témoigne à la fois de son histoire et de sa colère.
Oui, c'est l'ancien capitaine du 15 de France, Mathieu Bastaro.
Ancien centre international, 31 ans, 54 sélections, qui a passé son enfance à Quincy sous Sénart dans l'Essonne. Et il se rappelle très bien la première fois qu'il a été confronté au racisme. C'était en maternelle, il avait 4 ans. Un gamin avait dit aux autres « Ne jouez pas avec lui, il est noir, il a la couleur du caca ». Ce moment a marqué ma vie, confie le rugbyman, qui en a connu d'autres, tout aussi violents par la suite, notamment avec certains policiers, quand, avec ses copains, il quittait sa cité et traversait un quartier pavillonnaire pour aller faire du foot au stade municipal. Certains faisaient clairement du zèle, dit-il. On subissait un premier contrôle, et puis 200 mètres plus loin, rebelote en expliquant ne pas l'avoir bien fait la première fois. Et il suffisait qu'on dise un mot de travers par exaspération, et là, on se faisait embarquer. Et puis il raconte le racisme dans le rugby. Ici, un partenaire qui se fait traiter de macaque. Là, des spectateurs qui poussent des cris de singe. On lui demande son sentiment sur l'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd. Ce qui est triste, dit-il, c'est qu'il a fallu un énième meurtre pour qu'on se réveille. Ce mouvement concerne tout le monde. Ce n'est pas noir contre blanc, mais c'est l'humanité contre les racistes. Retenons cette phrase-là. Ce n'est pas noir contre blanc, mais c'est l'humanité contre les racistes.
On parle également du déconfinement dans la presse.
Avec cette interrogation à la une du JDD. Et si on allait plus vite? Des épidémiologistes préconisent d'alléger les protocoles sanitaires. Laissons les Français vivre. Dit également Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui répète qu'aujourd'hui la situation est sous contrôle et suggère notamment d'alléger les mesures mises en place dans les écoles au moment des repas, des récréations ou du sport, par exemple. De son côté, Le Monde nous raconte le télétravail sous un angle insolite. Quand les couples se sont retrouvés à bosser ensemble à la maison, certains ont découvert que leur moitié étaient insupportables, râleurs, ronchons, bruyants. D'autres ont découvert que leur moitié n'en fichait pas une rame. Témoignage de Sandy, coach en entreprise, qui a pris conscience que son mari était une véritable pipelette. Il a un poste stratégique dans une start-up. Je pensais vraiment jusqu'ici qu'il passait son temps à produire, à réfléchir. Ben, avec le confinement, j'ai découvert qu'il passait sa vie avec un casque sur la tête à papoter. Il est soit en réunion, soit au téléphone avec son boss en train de refaire le monde, soit en pause café virtuel avec des collègues. J'ai l'impression de l'entendre parler toute la journée, mais il travaille quand ? Se demande-t-elle. Et oui, le confinement nous aura permis non seulement de découvrir les capacités scolaires de nos enfants, mais aussi de découvrir les comportements de nos conjoints au travail. Autre histoire de comportement, dans Le Parisien, on nous raconte comment l'émission Fort Boyard a dû revoir l'ensemble du fonctionnement du programme afin de respecter la distanciation physique. Terminer notamment l'épreuve de la lutte dans la boue. Je suis désolé pour vous, Eric. Enfin, dans le même journal, trois témoignages à lire ce matin. Trois soignantes qui racontent leur quotidien, Afsa, Séverine et Magali, dont les enfants, pendant 2 mois à 20h, tous les soirs, aux fenêtres, criaient « Bravo maman !» Les mères sont formidables.
Les mamans sont formidables et on les embrasse pour cette fête des mères. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.